Le journal du soir avec vous, Olivier Zano. Bonsoir.
Bonsoir, amis du ballon rond. Préparez-vous à vibrer. Dans moins de 3 heures, la Suisse affronte l'Italie pour son deuxième match de l'Euro. Une affiche qu'on vous présente en détail dans ce journal et dans notre page sport. Journée historique pour la Suisse et la communauté internationale aussi. Les présidents russes et américains se sont rencontrés à Genève cet après-midi. Joe Biden et Vladimir Poutine qui se sont serré la main. On revient aussi en détail sur cette réunion attendue entre les deux chefs d'État. L'égalité salariale est une réalité à Bienne. Le conseil municipal a annoncé aujourd'hui qu'elle était atteinte au sein de l'administration. Une satisfaction pour le maire Eric Fer qui souhaite que sa ville montre l'exemple. Soleil de plomb et forte chaleur, c'est le décor pour cette fin de journée. Une journée encore une fois estivale. La soirée s'annonce calme et très douce, idéale pour s'attarder sur les terrasses. Demain, le temps restera ensoleillé malgré un ciel souvent voilé et des orages qui pourraient éclater en fin de journée. Suisse-Italie, on vous le disait, c'est dans quelques heures à Rome où la tension monte et on ne peut pas faire autrement que de vous en parler avant de développer les autres titres de l'actualité. La Nati va pouvoir compter sur quelques centaines de supporters dans le stade olympique, à l'image de Jérémy Berbera, présent depuis dimanche déjà à Rome. On l'écoute.
L'ambiance sur place, c'est un pays très footballistique, donc effectivement, tout le monde est, on va dire, au taquet avec ce mot. Il y a cette ferveur footballistique qui est quand même bien présente ici.
Est-ce qu'on ose arborer le maillot, le drapeau de la Suisse au milieu des Italiens?
Quand on est dans la fan zone, il n'y a aucun souci. Effectivement, là, on était hier pour voir le match France-Allemagne. Il y a énormément de Suisses, hein, donc aucun problème avec ça. Mais là, ça fait depuis dimanche, effectivement, que j'ai le maillot même dans un coin un peu plus retiré où c'est qu'il y a plus de locaux. Et il n'y a pas vraiment de souci. Il y a eu quelques fois un peu des petites piques de la part de certains Italiens, mais franchement, ça restait bon enfant.
Qu'est-ce qui se dit au sein des supporters suisses avant ce match face à l'Italie?
On va dire qu'on est un peu stressé, hein, parce qu'on sait que ben voilà, l'Italie, c'est sur le papier clairement l'équipe la favorite du groupe, hein, mais c'est vrai qu'on y va tous de notre petit pronostic. Et un pronostic, à pas se cacher, un peu tronqué par le cœur.
Donc on voit clairement une victoire suisse au sein des supporters rouge à croix blanche.
On l'espère tous, en tout cas.
Et oui, on l'espère. Un des propos recueillis par Mathieu Schaffner, Suisse-Italie, c'est à 21h à Rome. On y revient en détail dans quelques minutes. Ça sera dans notre page sport. C'est l'autre grosse actualité du jour. Journée historique pour la Suisse et la communauté internationale. Les présidents russes et américains se sont rencontrés à Genève pour la toute première fois. Comme prévu, c'est sur le perron de la Villa Lagrange que Joe Biden et Vladimir Poutine ont fait leur apparition ensemble et qu'ils se sont serrés la main avant de disparaître durant de longues heures retranchés dans une bibliothèque à l'abri des regards. Retour sur les étapes du jour qui ont mené à cette poignée de main très attendue avec Hélène Yost.
Vladimir Poutine s'est fait attendre, mais il a fini par arriver vers midi et demi sur le tarmac genevois, soit 2 heures plus tard qu'initialement prévu. Le président russe a ensuite patienté un peu avant de descendre de son avion, puis il s'est engouffré dans une grosse voiture sans un geste de la main. Et à partir de là, tout s'est accéléré. Une demi-heure après, le cortège russe est arrivé à la Villa Lagrange. 20 minutes plus tard, c'était au tour de la caravane américaine. À 13h25 précisément, Joe Biden et Vladimir Poutine étaient sur le perron, ailés par les quelques photographes et journalistes autorisés à s'approcher. Entre les deux hommes se tenait leur hôte, Guy Parmelin. Le président de la Confédération a prononcé un bref discours.
Monsieur le président de la Fédération de Russie, monsieur le président des États-Unis d'Amérique, au nom du gouvernement suisse, je vous souhaite la bienvenue à Genève, ville de paix. La Suisse est très honorée de vous accueillir pour ce sommet. Elle est heureuse de pouvoir ainsi, conformément à sa tradition des bons offices, favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle. Je vous souhaite, messieurs les présidents, de fructueux dialogues dans l'intérêt de vos deux pays et du monde. Tous mes voeux et au revoir, best wishes and goodbye, Ushparop i dasvidaniya.
La locution a été traduite en russe et en anglais avant que Guy Parmelin ne s'éclipse. Les conditions étaient alors réunies. Joe Biden s'est tourné vers Vladimir Poutine. Ils se sont approchés et, sourire aux lèvres, ils se sont serrés la main. Un geste bref, mais qui portait en lui un lourd poids symbolique. Puis les deux présidents sont entrés, la porte s'est refermée et les choses sérieuses ont pu commencer.
Et la rencontre d'ailleurs qui s'est achevée il y a une demi-heure environ. Mais la journée est loin d'être finie. Désormais, chaque président devrait prononcer une allocution pour clore officiellement ce sommet. Guy Parmelin viendra ensuite présenter les résultats de son rendez-vous avec Vladimir Poutine. On revient dans la région. La société Montsoleil a pris congé de son président et fondateur ce matin. C'était à l'occasion de son assemblée générale. Après 30 ans, Martin Pfisterer passe la main et devient président honoraire. Cette réunion a également permis de tirer le bilan 2020. L'année a été particulièrement faste en termes de production d'énergie. On écoute le directeur de la société Montsoleil, Laurent Reber.
C'est une très bonne année en termes de production. On est une dizaine de pourcents en-dessus de la moyenne de ces 20 dernières années, avec quelque chose qui approche les 600 000 kWh de production annuelle, ce qui fait la 7e meilleure année de cette période.
Vous avez cherché des explications. Pourquoi ça s'est si bien passé? Vous en avez trouvé?
Alors, on s'est dit, est-ce que la baisse de l'activité humaine due au lockdown, à la pandémie, au confinement, est-ce que ça a eu un effet sur la diminution de la pollution, une meilleure qualité de l'atmosphère et qui pourrait peut-être expliquer cette bonne année au niveau en termes de production photovoltaïque? La réponse est un peu mitigée. Il y a des effets, mais on ne peut pas faire un lien manifeste entre la réduction de l'activité humaine et la qualité, la bonne production d'énergie et d'électricité d'origine photovoltaïque.
Cette année, l'association Montsoleil prend sous son aile le Swiss Energy Park, un laboratoire dédié aux énergies renouvelables. Le site s'y prête bien puisque l'énergie produite par la centrale solaire de Montsoleil, les éoliennes Juvent et la centrale hydraulique de La Goule permet de couvrir pratiquement 90% des besoins en électricité de la zone de desserte de La Goule, soit 21 000 habitants. La ville de Bienne veut montrer l'exemple en termes d'égalité salariale. Deux jours à peine après la grève des femmes et les nombreuses revendications dans ce sens, les autorités ont rendu public aujourd'hui les résultats d'une analyse menée fin 2020. Celle-ci révèle une différence de 2,8% entre les salaires des hommes et des femmes dans le domaine public, ce qui représente une nouvelle amélioration par rapport à 2017. Pour le maire de Bienne, Eric Fer, c'est une immense satisfaction.
Je suis très ravi et heureux que la dernière analyse qu'on a faite a montré qu'on a atteint l'égalité salariale et on s'engage, le conseil municipal incorporé, pour que cette égalité soit durable parce qu'il faut toujours veiller à ce que ça reste ainsi. Normalement, on a mis les mesures nécessaires en place, mais le sujet reste d'actualité et d'importance tout le long.
Alors c'est un travail de longue haleine, vous l'avez dit, il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour arriver à ce résultat. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait à Bienne?
Alors il faut d'abord dire que les grilles salariales des collectivités publiques facilitent un peu l'égalité salariale parce que vous avez comme un salaire de départ toujours à tenir compte de l'expérience professionnelle et du niveau de qualification et de l'âge des personnes. Et il est particulièrement prévu que les années que quelqu'un a consacrées à l'éducation des enfants soient aussi retenues là-dedans. Mais en plus de ça, nous avons, il y a 5 ans maintenant, adapté le règlement du personnel, où on a intégré des dispositions qui soutiennent l'égalité salariale. Et surtout, on a fait un grand travail de sensibilisation auprès des autorités d'engagement qui veillent justement, quand ils définissent, quand ils fixent avec le département du personnel les salaires de départ, à ce que l'égalité entre les deux sexes soit respectée.
Et le seuil de tolérance qui permet d'évaluer s'il existe des différences salariales inexplicables entre les sexes est fixé à 5%. Le résultat obtenu est donc inférieur à cette valeur seuil. Le conseil municipal de Bienne entend poursuivre sur cette voie. À Bellelay, c'est une riche saison estivale qui s'annonce du côté de l'abbatiale. La fondation qui gère le lieu a présenté ce matin l'exposition phare. Elle est consacrée à l'artiste zurichois Christophe Rüttimann, un artiste qui touche à tous les genres, de la peinture à la sculpture en passant par la vidéo. Il propose à Bellelay une sorte de triptyque spécialement conçu pour le site, composé de peintures sur verre, d'une sphère en débris de bois et d'un monumental plan incliné. Les explications de la commissaire de l'exposition, Marina Porobitch.
Tout d'abord, c'est un ensemble qui nous démontre très bien quel est l'intérêt de Christophe Rüttimann dans son approche artistique. Et c'est en fait de jouer avec les frontières, de jouer entre les genres, dans le sens où chacune de ces pièces ne peut pas être attribuée dans un genre particulier. Ça peut être aussi bien la sculpture qu'une peinture. Donc c'est ce jeu qui l'intéresse tout d'abord. Et après, chaque de ces éléments rentre dans un dialogue particulier avec le lieu, que ce soit par le matériau, par exemple le bois, qui est aussi un matériau de construction de l'abbatiale, que ce soit par l'effet de miroir, de réflexion, dans les peintures sous verre, qui reflètent l'espace et permettent de donner toute une autre vue sur l'ensemble de l'espace. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque élément interagit sur l'autre élément et ça crée un ensemble avec le lieu.
L'exposition est à voir jusqu'au 26 septembre. Un vernissage est prévu ce samedi de 11h à 17h avec une performance de l'artiste. L'été à l'abbatiale s'annonce aussi musical avec toute une série de concerts aux orgues. Plus d'informations sur notre site internet. On fait un détour sous la coupole fédérale. La liberté de la presse est recadrée par le Conseil des États. Il a abaissé le seuil de gravité des atteintes à la personnalité pour qu'un juge prononce ce qu'on appelle des mesures provisionnelles et reporte, voire interdise, la publication d'un article. Tout sera question de nuances. Par 30 voix contre 12, le Conseil des États a seulement supprimé un mot dans la loi, le mot « particulièrement ». Il fallait jusqu'ici que l'atteinte puisse causer un préjudice particulièrement grave. Il faudra désormais, pour autant que le Conseil national en boîte le pas, que l'atteinte portée dans un média cause un préjudice grave. La majorité des sénateurs veut-elle museler la liberté de la presse ? Le conseiller aux États libéral radical neuchâtelois, Philippe Bauer.
La Commission a dit qu'elle souhaitait qu'il y ait des atteintes légères, des atteintes bénignes, et c'est normal que, comme homme politique, on soit épinglé, et des atteintes qui sont graves, et qu'il n'y avait pas de place pour une catégorie moyenne d'atteintes qui sont simplement graves et qui sont tolérées, mais finalement qu'au moment où on dépassait ce cadre bénin, que les autres conditions aussi étaient remplies, puisqu'à côté de ça, les mesures doivent être disproportionnées, l'atteinte ne doit être justifiée par aucun autre intérêt public, et tout ça. Reste, c'est quelque chose qui favorise plutôt le journalisme d'investigation, peut-être au détriment des tabloïds pour qui seul l'audimat est important.
Et n'est-il pas louable de protéger les individus contre les articles dévastateurs ? Ce n'est pas vraiment la croisade de la majorité, selon le conseiller aux États socialistes genevois, Carlos Omaruga.
Ce qui était sous-jacent aujourd'hui, c'est les expériences personnelles et émotionnelles des politiciens qui ont été critiqués, parfois avec des campagnes un peu longues, et qui les ont touchés, et qui de fait voulaient se protéger contre les médias. On est dans une vision assez autoritaire, sécuritaire, et peut-être de limitation de la liberté au sens général, pas seulement en matière de journalisme. J'aurais aimé avoir un Jean-François Aubert, Gilles Petit-Pierre, ces esprits de droite, en fait, illuminés par l'idée de liberté de la presse, qui est en fait un élément constitutif de notre démocratie et de la force de la démocratie.
Et des propos recueillis par Serge Jubin.
18h13 sur RJB, on passe tout de suite au sport.
Sport. L'équipe de Suisse de football veut éliminer sa frustration en signant un exploit. La Nati s'attaque à l'Italie ce soir à 21h à Rome, deuxième match de la phase de groupe. Accrochée par le Pays de Galles samedi, la sélection de Vladimir Petkovic veut relever la tête dans cet Euro. Elle aura fort à faire face au favori du groupe, l'ancien défenseur de la Nati, Stephen Bergen.
Les Suisses devront être plus lucides devant le but, plus efficaces devant le but qu'ils l'ont été contre le Pays de Galles. Car certainement qu'aujourd'hui, il n'y aura pas 15 tirs au but, comme ça a été le cas contre le Pays de Galles il y a quelques jours à Bakou. Donc, aux Suisses de rentrer dans ce match-là, en sachant qu'il faut ramener des points, et en connaissant également la qualité de l'adversaire en face, car les Italiens sont sur une série assez affolante de 28 matchs sans défaite, 9 matchs sans prendre de but, donc... En face, ça va être du costaud.
L'Italie qui est donc particulièrement solide ces derniers temps. 28 matchs sans défaite, 9 rencontres sans encaisser le moindre but. Ces statistiques impressionnent, mais il n'y a pas lieu pour autant de jouer le 0-0 face à cette équipe. Stephen Bergen.
Si tu joues le 0-0 contre les Italiens, c'est... t'es pas à l'abri de reprendre un contre ou de prendre simplement un but. Donc non, bien sûr que tu vas rentrer avec la mentalité d'essayer d'aller chercher la victoire. Mais il ne s'agit pas de se ruer à l'abordage et de tout ça aller de l'avant, car l'Italie a de grandes qualités également en contre avec les joueurs qu'on connaît. Donc il va bien falloir être discipliné. Il va falloir plus courir et plus lutter que contre le Pays de Galles. Et encore une fois, il va falloir être plus efficace devant le but.
Stephen Bergen, l'ancien défenseur de la Nati, il était l'invité du Café de l'Euro sur RJB aujourd'hui entre 13h et 13h30. Vous retrouvez son interview complète ainsi que les meilleurs moments de notre émission 100% foot sur notre site internet. Et on le rappelle, Suisse-Italie, c'est ce soir à 21h à Rome. Dans ce groupe A, l'autre match du jour a commencé. C'était il y a quelques minutes à Bakou. La Turquie défie le Pays de Galles et c'est toujours 0-0. Après 15 minutes de jeu. Cet après-midi, dans le groupe B, la Russie affrontait la Finlande à 15h. Victoire précieuse pour les Russes 1-0 sur une réussite de Miranchuk juste avant la mi-temps. Je n'ai pas le droit d'aller comme ça avec la bouche contre son dos. Les mots aujourd'hui d'Antonio Rudiger. Le défenseur de l'Allemagne a regretté son geste sur Paul Pogba hier lors de la défaite face à la France. Le joueur de la Mannschaft a assuré ne pas avoir mordu le milieu de terrain des Bleus. Marco Arnautović, lui, suivra le prochain match de l'Autriche depuis les tribunes. L'attaquant a écopé d'une rencontre de suspension pour mauvaise conduite de la part de l'UEFA. Il ne pourra pas être aligné demain face aux Pays-Bas. Marco Arnautović a insulté un adversaire dimanche. C'était face à la Macédoine du Nord. Et l'UEFA doit revoir ses règles sur la reprogrammation des matchs. Affirmation du président de la Fédération danoise aujourd'hui. Il a critiqué la façon dont la rencontre Danemark-Finlande a repris samedi après le malaise cardiaque du milieu de terrain Christian Eriksen. Le président de la Fédération danoise se dit prêt à faire une proposition à l'instance européenne. Et avant de vous laisser vous préparer pour le match de ce soir, encore un mot de tennis. Roger Federer ne gardera pas un souvenir lumineux de son premier affrontement contre un joueur né en 2000. Le Balois a bu la tasse à Alais devant Félix Auger-Aliassim, 21e à l'ATP. Une défaite 4-6, 6-3, 6-2 qui prive le Balois d'un 11e titre dans ce tournoi. À moins de 2 semaines du rendez-vous suprême de Wimbledon, cette élimination fait tache alors que Federer était venu en Allemagne pour faire le plein de confiance. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée et hop Suisse!
Et pour revenir sur cette histoire de morsure entre Rudiger et Pogba, je pense qu'il y en a un qui a dû sourire hier devant sa télévision, c'est Luis Suarez.
La météo avec Seat, à découvrir chez Amag dans ses nouveaux locaux, chemin du Longchamp à Bienne.
Et si nous terminions cette journée avec un soleil de plomb et de forte chaleur avant une soirée calme et idéale pour s'attarder en plein air, suivie d'une nuit dégagée accompagnée de températures qui resteront douces. Demain, on reste avec un temps ensoleillé malgré un ciel souvent voilé. Nous connaîtrons également le développement de cumulus au fil des heures et quelques averses et orages isolés pourraient éclater l'après-midi sur le Jura. Passage nuageux en augmentation en fin de journée demain et orages pouvant s'étendre sur le Zeeland en soirée et première partie de la nuit tout en étant localement assez intense. Côté température, les experts de Météo News nous annoncent qu'on restera au-dessus des 30 degrés autour du lac de Bienne et à Moutier demain, où l'on attend 31 au compteur. Pour Saint-Imier, Tramelan et Tavannes, on sera juste en dessous avec 29 degrés au meilleur de la journée.
La météo avec Seat, à découvrir chez Amag dans ses nouveaux locaux, chemin du Longchamp à Bienne.